Le Grand, hein, parce qu'il a vraiment fait avancer la théologie trinitaire. Alors, il va aussi produire une dizaine d'années plus tard un traité sur le Saint-Esprit, une trentaine de chapitres, où il montre que le Saint-Esprit est de la même substance divine que le Père et le Fils. Alors, il va critiquer ce qu'on appelle les pneumatomaques, ceux qui veulent tuer l'esprit. Et il va dire que l'égal honneur qui est rendu dans... Alors, il va partir. Ce qui est intéressant, c'est que, il part pas uniquement de la, disons, de la spéculation, mais il va partir de la liturgie. Il va montrer que dans la liturgie, depuis toujours, on place le Saint-Esprit au même degré que le Père et le Fils. Et donc, à partir de la pratique liturgique, il va, ça va être pour lui un motif, de souligner l'égale dignité, enfin la divinité du Saint-Esprit. Et puis, en particulier, il va montrer que ça s'enracine dans les plus anciens symboles baptismaux. Donc, vous savez, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ça a été tout de suite repris dans la liturgie. Il va également montrer que, que le fait que le Saint-Esprit soit divin, comme le Fils soit divin, n'empêche pas l'idée de monarchie divine, l'idée d'une prééminence du Père, d'une certaine manière, du fait qu'il est incausé. Voilà. Donc le Père est source, hein. Et donc, en ce sens, il est premier en Dieu. Mais le fait qu'il soit premier n'empêche pas qu'il puisse y avoir un second et un troisième qui lui soient égaux. Voyez. Donc ça, c'est important. Alors, donc, il prend acte de la liturgie et il prend également, ça sera le premier à le faire, l'argument du consensus des pères. C'est-à-dire que pour démontrer, enfin pas pour démontrer, mais pour appuyer sa démonstration, il va faire une enquête sur les autres auteurs, c'est donc essentiellement des évêques qui l'ont précédé, pour montrer qu'ils pensent de la même manière. Donc il y a une tradition épiscopale qui va dans ce sens-là, et il s'appuie sur le consensus donc des pasteurs. Et comme un argument théologique, vous voyez, comme on dira plus tard au XVIe siècle, un lieu théologique. Hein, la liturgie comme lieu théologique, le consensus des pasteurs, évêques, comme un lieu théologique, comme un point sur lequel on peut appuyer sa doctrine. Parce que, évidemment, démontrer dans l'ordre des choses révélées, c'est quand même assez complexe, hein, puisque c'est révélé. Donc, ça ne relève pas de la pure raison. Donc, à un moment ou à un autre, il faut s'appuyer sur la foi. Et Basile montre qu'on peut s'appuyer sur la tradition et sur la liturgie, parce qu'elles nous ont été fournies dès l'origine, hein, parce que le Nouveau Testament nous fournit une liturgie, d'une certaine manière, et nous fournit une hiérarchie. Donc, à partir de cette hiérarchie, de cette liturgie, eh bien, on peut aller, quand par exemple, à la fin de l'évangile de saint Marc, baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le point de départ du baptême, hein. Et donc, à partir des Écritures, on peut s'appuyer sur la tradition et sur le magistère épiscopal pour défendre des doctrines qui ont été défendues par la liturgie, par le magistère épiscopal. Donc voilà pour Basile le Grand. Alors passons maintenant à son grand ami Grégoire de Nazianze. C'est pas Nazianze, en fait c'est un Z. Alors il est contemporain à peu de choses près, 330 aussi. Alors sur Grégoire de Nazianze, on est bien renseigné. Parce qu'il a été l'un de ces rares auteurs de l'Antiquité qui a parlé de lui. Il a écrit sur lui-même un Carmen de Vita Sua, hein, donc un chant sur sa propre vie.
alors ?
Alors donc il raconte un peu sa vie. Il est né à Nazareth, figurez-vous. En Asiance. Il est né à Nazianze, donc aussi en Cappadoce. Alors lui était fils d'évêque. Voilà. Bah parce qu'à l'époque. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. C'était l'époque où il y avait des conversions de gens. De gens mariés, et alors souvent des gens un peu brillants, alors on les élisait assez vite évêques, et puis souvent l'épouse, alors soit elle était prédécédée, ou alors elle devenait...
Il ne faut pas grand-chose pour qu'un homme devienne évêque.
Elle transformait sa maison en monastère. Alors, donc les servantes devenaient moniales, donc ça marchait comme ça.
Elles devenaient
moniales.
Elles transformaient leur maison en monastère.
J'imagine que c'était d'un commun accord.
Évidemment.
Ceux qui n'ont pas voulu, ils ne sont pas restés dans l'histoire.
C'est vrai que ce n'était pas les femmes. La libération des femmes.
La femme ne voulait pas du
genre. Oui. Enfin, de toute manière, à l'époque, elle suivait un peu l'opinion du mari, malgré tout.
À moins que ce soit elle qui révèle au mari sa
vraie vocation. Ça, c'est possible aussi. Hein. Oui. Parce que comme, en fait, tous ces auteurs ne parlaient pas trop d'eux, en fait, on sait pas grand-chose. Mais on sait simplement que quand l'un était marié, qu'il devenait évêque, c'est que souvent, son épouse devenait abbesse. Hein, en fait, c'était un peu ça. Et puis alors le personnel, il devenait moine ou monia. Hein, c'est pas très compliqué. Alors,
l'avenir était assuré.
Oui, voilà.
Ça ne changeait pas beaucoup parce que vous savez, les types qui travaillaient les grands domaines du sénateur qui devient évêque ou qui devient abbé, ils changeaient leur habit et puis ils continuaient à gratter la terre. Donc ça ne changeait pas. Notre Grégoire recevra le baptême tardivement, lui aussi, avant son ordination, quand même, en 61. Il a une sœur aînée qui s'appelle Sainte Gorgonie. C'est ça. Si vous avez des nièces ou des. Vous pouvez toujours leur proposer Gorgonie. C'est pas la Gorgone. Et il avait un frère cadet qui s'appelle Saint Césaire. Donc vous voyez, encore une famille de saints.
Oh, c'est extraordinaire. Ça.
Alors, il était aussi issu d'une grande famille aristocratique.
C'est pas chier, il était évêque, non, ça,
Alors ça, je ne sais pas. Il y a César d'Arles, oui, qui sera évêque, mais ce n'est pas la même famille. C'est pas le même. Alors, donc une grande famille aristocratique aussi du Pont, avec de grands biens fonciers. Lui aussi a commencé ses études à Césarée de Cappadoce. C'est là qu'il a rencontré Basile. L'empereur Julien à Césarée, puis à Constantinople. Et il continue ses études pendant 5 ans à Athènes avec Basile. Alors, Grégoire voulait devenir moine. Comme son père, donc Grégoire l'Ancien, vous voyez, moine et évêque. Hein. Son père, Grégoire, a besoin de son fils. Donc son fils avait fait de bonnes études. Et du coup, il l'a recruté dans sa curie épiscopale, justement pour défendre ses idées, qui étaient les idées du Concile de Nicée. Donc le papa était nicéen. Et du coup, il recrute son fils pour défendre le concile. Alors, ordonné en 361, il va être pendant 15 ans le porte-parole théologique, enfin le conseiller théologique et le porte-parole de son père, alors qu'en fait il voulait être moine, il voulait se retirer. À la mort de son père, il espère pouvoir retourner dans le monastère, mais manque de veine, le clergé l'élit comme évêque. Et donc il refuse un peu, il hésite beaucoup, mais Basile à ce moment-là sort de l'ombre et le persuade d'accepter l'épiscopat justement pour renforcer le parti anti-arien qu'il est en train de mettre en place. Alors en fait, il est évêque d'un endroit qui était un gros bourg perdu. Et en fait, finalement, ça, il ne restera pas vraiment sur son siège. Il retournera à Nazianze tranquillement sur les terres familiales en gouvernant son petit diocèse de loin.
Comment ça se fait que... Enfin, qui décide, qui nomme les évêques ?
À l'époque, ils sont élus par le clergé.
Même la population, quelquefois.
Oui, même parfois la population.
Donc,
oui, comme Saint-Ambroise à Milan, comme... Voilà, par exemple, Augustin à Hippone, il succédera, parce que finalement c'est le clergé qui le pousse à prendre la succession de j'ai oublié le nom là, de Valère peut-être. C'est Valère.
Ouais,
hein. Et donc voilà, à cette époque, il n'y a pas de nomination par Rome et pratiquement pas de nomination non plus par les patriarches. À la limite, c'est presque plus souvent l'empereur qui nomme au poste. Hein. Enfin, quand il n'y a pas d'élection. Normalement, c'est les élections. Mais alors, parfois, l'empereur vire l'élu et le remplace par quelqu'un d'autre. Il y aura plein d'histoires à cette époque d'évêques et d'anti-évêques. Hein, parce que, selon la politique impériale, l'évêque légitime plaît ou plaît pas. Et à ce moment-là, les empereurs ne se gênent pas trop pour, pour imposer leur choix. Alors, donc il reste à Nazianze, où il travaille, et sa cousine Théodosie l'appelle à Constantinople pour diriger la petite communauté qui était restée fidèle à la foi du Concile de Nicée, puisque à Constantinople, finalement, les gens avaient tendance à penser comme l'empereur, hein, parce qu'il n'était pas loin. Alors c'est là qu'il va donner 5 discours catéchétiques, qui sont les principales œuvres qu'on retient de lui, 5 discours théologiques adressés à une communauté qui est acquise à sa cause. Et donc, il va former pour qu'elle soit plus solide. Donc, 5 discours théologiques qui vont impressionner notamment un des auditeurs qui était de passage, Saint Jérôme, qui a résidé un temps à Constantinople avant de s'établir en Palestine. Et Théodose, le meilleur ennemi et le meilleur ami de Saint Ambroise, lui qui est vraiment nicéen, n'oubliez pas que Théodose vient de l'Espagne, hein, de sa famille et de la partie qui est restée toujours nicéenne finalement, devenu empereur de tout l'Empire, eh bien, il va chasser l'évêque arien, le patriarche arien de Constantinople, et il va installer le plus brillant des Nicéens de Constantinople, c'est-à-dire Grégoire. Alors Grégoire, il va encore traîner les pieds, parce que se retrouver patriarche de Constantinople, ça l'amuse pas beaucoup. Et puis Théodose convoque le concile, et le patriarche... Mélas d'Antioche étant mort, c'était lui le premier président du concile, le patriarche de Constantinople qui lui succède à la tête du concile. Alors, il va être attaqué de toutes parts, parce que c'est un concile où ça a beaucoup discuté, il y a eu des tas de partis, etc.
C'était combien ? Ils étaient nombreux ?
Oh, oui, quelques centaines d'évêques, essentiellement des orientaux. Et quelques légats occidentaux envoyés par le pape. Et alors il va donner sa démission.
Il est attaqué par les Ariens
Oui, par les Ariens et puis par tous les gens que ça gêne de voir un évêque pieux, austère, etc. Puis alors, vous voyez, dans les milieux de la capitale, c'est un peu... les milieux de pouvoir de la capitale, ça grouille un peu. Oui. Et lui, c'est pas son style, il n'aime pas trop. Alors, donc, il donne sa démission, il prépare son neveu à le remplacer, non, son cousin, à le remplacer sur le siège de Nazianz, et puis il se retire sur ses terres pour finir sa vie comme moine. Et c'est lui qui, parlant du concile de Constantinople, dira que ça ressemblait à une bataille navale livrée dans l'obscurité.
Ah oui,
c'était par Benoît XVI. Une bataille navale livrée dans l'obscurité où on ne sait pas où sont les amis et les ennemis, où on s'aborde sans s'être reconnu. Donc, en fait, le plus grand la plus grande des confusions. Alors, durant sa participation au concile de Constantinople, il fait rétablir le credo de Nicée, qui va compléter avec la procession du Saint-Esprit. Dans le credo de Nicée, nous croyons au Saint-Esprit. Alors, tout ce qu'on a en plus maintenant dans le credo du dimanche, eh bien, ça vient de Grégoire de Nazianz, à l'exception du Filioque. Alors, dans ses œuvres, alors c'était un poète, donc on a de nombreuses œuvres en poétiques, en vers. Il aimait bien aussi faire des oraisons funèbres. Il aimait bien s'adresser à des auditoires cultivés. On sent qu'il avait profité de ses études littéraires et philosophiques à Constantinople et à Athènes. Mais alors, il prêche également sur l'écriture et puis sur des sujets qui touchent la vie concrète des gens de son temps, en particulier de l'Église au plus haut niveau. Par exemple, les questions sur la discorde, la réconciliation, le niveau du clergé, niveau moral du clergé, etc., etc. Donc, il aborde aussi les questions qui fâchent un peu, et la vie concrète de son temps. Alors, en tout cas, il est clair que pour Grégoire, l'évêque idéal, c'est un moine. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui est dépourvu de toute ambition humaine, et alors, précisons aussi, un moine cultivé, parce que... on verra que dans le monde oriental, les moines sont parfois un peu bas de plafond, ils sont parfois un peu bornés, voilà, et un peu rustiques, voilà. Et alors lui, évidemment, qui était plutôt assez fin, il veut bien, le monde monastique pour lui, ça serait plus être bénédictin mauriste que d'être un moine irlandais. Oui, remarquez, c'est vrai, vous avez raison. Mais je dirais ceux qui étaient dans les petites îles plus à l'ouest.
Ah, mais c'était missionnaire.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai qu'en fait, la culture s'est repliée en Irlande. Occidentale à la
survie.
Mais les moines anglais aussi, les moines anglais. En fait, ce qui est assez replié sur les monastères, soit insulaires, soit, on pourrait dire, le long des côtes, aussi bien en Angleterre qu'en Irlande, du reste. Enfin voilà, en tout cas, lui est partisan donc de moines vraiment cultivés et apte à discerner dans le chaos des doctrines où est la vérité, et puis aussi suffisamment courageux pour prendre parti et pas simplement se plier à l'opinion de l'empereur. Et en même temps, capable donc de s'opposer par exemple à la cour ou des choses comme ça. Alors, Grégoire est vraiment un théologien, un réel théologien, mais aussi un théologien contemplatif. Et ça se verra notamment dans ses poèmes. Il nous a laissé environ 17 000 vers, donc des carmina, hein, des sortes de chants. Alors, des poèmes didactiques, la plupart du temps, il écrivait des poèmes pas pour se faire plaisir, hein, mais parce que la versification permet aussi un système mnémotechnique qui permet de à la mémoire de retenir les choses, et puis en même temps ça peut être réutilisé par exemple dans la liturgie, sous forme d'ode, sous forme de cantique, etc. Alors il a écrit du coup des hymnes, des élégies, enfin toutes sortes de types de poèmes. Et puis aussi des discours, on appelle ça oratio à l'époque, hein. Oratio c'est un truc qui est prononcé par la bouche, hein, voilà. C'est pas nécessairement une prière. Et le corpus qu'on a de Grégoire compte environ 45 discours, théologiques. Donc en particulier 5, ces 5 discours théologiques dont je vous parlais, qu'il avait composés à Constantinople quand il était avant son épiscopat, enfin avant son qu'il devienne patriarche. Et ces grands discours théologiques qui vont être prononcés au moment du concile, juste avant, au moment où finalement il va être nommé archevêque, enfin patriarche de Constantinople, et qu'il mènera le concile, eh bien, lui vaudront le surnom de Grégoire le théologien. Voyez. Donc, c'est vraiment quelqu'un de premier ordre.